Point de repère à la croisée des spiritualités. Une émission proposée par Pierre-Paul Denneau pour susciter une pensée et une action à la hauteur de ce qui nous arrive. Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux. Et nous entamons aujourd'hui la saison 2019-2020 de notre émission à la croisée des spiritualités. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir des membres de la communauté Baha'i. Geneviève Hulin, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Laperche, bonjour. Pierre Léonard,
bonjour.
Bonjour à vous, bonjour et heureux de vous recevoir dans nos studios. La religion Baha'i, certains auditeurs s'en souviennent sans doute, est née au XIXe siècle en Iran et a un retentissement large dans le monde. Nous allons approfondir tout ceci et tout de suite nous allons entrer dans le vif du sujet. Parce que, au mois d'octobre prochain, la communauté Baha'i va fêter le bicentenaire de la naissance du Bab. Qui est donc le Bab, Jean-Pierre Laperche?
Le Bab est un personnage extraordinaire, comme il en existe très peu dans l'histoire de l'humanité, avec des revendications stupéfiantes. Il est né dans une famille de négociants respectés à Shiraz, en 1235 de l'Égypte, c'est-à-dire en automne 1819, et c'était le premier jour de l'année musulmane. Il descend du prophète Mohammed. Selon ses déclarations, le Bab jouit d'un double rang. Il est l'initiateur d'une nouvelle dispensation religieuse, prophète indépendant qui affirme réaliser le dessein de tous ceux qui l'ont précédé. Mais il est aussi celui qui annonce la venue de celui que Dieu rendra manifeste, en la personne de Baha'u'llah, qui est le fondateur de la foi Baha'i. Baha'u'llah lui-même, il est né 2 ans plus tôt, le deuxième jour de ce premier mois de l'année, mais en 1233, donc en 1817. Mais c'est pourquoi, comme ces 2 jours se suivent dans le calendrier, c'est pourquoi les 2 naissances sont célébrées 2 jours consécutifs et constituent 2 jours saints jumeaux du calendrier Baha'i. Cette année, ces fêtes auront lieu les 29 et 30 octobre dans des milliers de communautés Baha'i à travers le monde. Et le 29 marque le bicentenaire de la naissance du Bab. La validité des lois apporté par le Bab n'a duré que peu de temps, car Baha'u'llah s'est manifesté très vite après la mort du Bab. La carrière prophétique du Bab s'est étendue de sa 25e année à sa 31e année, de 1844 à 1850. Les Occidentaux qui ont rapporté son histoire ont été frappés par la ressemblance de celle-ci avec celle de Jésus. Mais le Bab a une revendication très claire et il s'adresse au Shah de l'Iran en disant ceci. « Je suis le premier point à partir de qui ont été engendrées toutes choses créées. Je suis la face de Dieu dont la splendeur ne peut jamais être ternie, la lumière de Dieu dont l'éclat ne peut jamais faiblir. Je suis un des piliers qui soutiennent le verbe originel de Dieu. » Abdu'l-Baha, qui est le fils aîné et centre de l'alliance de Baha'u'llah, est défini comme ceci la croyance Baha'i. Il dit « Le Bab est la manifestation de l'unité et de l'unicité de Dieu et le précurseur de Baha'u'llah. Et Baha'u'llah est la suprême manifestation de Dieu et l'aurore de son essence la plus divine, tous les autres sont ses serviteurs et obéissent à son commandement. Abdu'l-Bahá lui-même a pris le titre de serviteur de Baha, Abdu'l-Bahá. Dans le calendrier Bahá'í, 3 des 9 jours saints sont, célèbrent la vie du Bab. Mais le Bab a des lois qui ont été reprises par Baha'u'llah, notamment le nouveau calendrier de 19 mois de 19 jours, les fêtes qui réunissent la communauté au premier jour de chaque mois, et le jeûne annuel qui précède l'équinoxe de printemps. Les nombreuses prières et les écrits du Bab sont aussi utilisés dans la vie dévotionnelle. Et son tombeau trône majestueusement sur les pentes du Mont Carmel, au centre mondial administratif et spirituel de la foi bahaïe.
Revenons un peu au Bab, à sa naissance et à sa jeunesse. Quel fut le milieu dans lequel il a grandi, Pierre Léonard?
À la naissance, le Bab avait reçu le nom de Ali Muhammad. Ce n'est que plus tard qu'il prit lui-même le titre de Bab, qui veut dire la porte. Il est né dans une famille de négociants à Shiraz. C'était des commerçants de tissus. Shiraz se trouve dans le sud-ouest de la Perse. C'est une ville connue pour sa beauté, ses monuments, ses jardins et ses poètes. Beaucoup de gens maintenant visitent l'Iran et visitent en particulier Shiraz et ses magnifiques mosquées et le mausolée du fameux poète Hafez. Le père du Bab est mort alors que le Bab était encore un petit enfant. Il fut donc élevé par un oncle maternel qui devient d'ailleurs plus tard un de ses premiers disciples et qui fut martyrisé. Tous les témoignages concernant l'enfance du Bab disent que c'était un enfant extraordinaire. Il avait reçu un enseignement vraiment rudimentaire en lecture-écriture, comme les quelques favorisés qui avaient accès à un certain enseignement à l'époque. Et il faisait preuve d'une sagesse innée. Son maître le ramenait parfois à la maison pour dire « Moi, je n'ai rien enseigné à cet enfant, c'est lui qui m'enseigne ». À ses qualités de l'esprit, il fallait ajouter une nature profondément spirituelle. Alors qu'il était encore un jeune garçon, le Bab passait déjà de longs moments en prière et en méditation, parfois la nuit sur le toit de sa maison. Un jour, son maître protestait, disant qu'il n'était pas nécessaire qu'un enfant de son âge passe autant de temps à la prière. Le Bab lui répondit qu'il avait été chez son grand-père, et qu'il essayait de l'imiter. En fait, il faisait référence au prophète Mohammed. Et c'est ainsi que les enfants de famille qui se prétendent descendants de la famille du prophète parlent de Mohammed en général. Ils en parlent comme de leur grand-père. Le Bab quitte l'école alors qu'il n'a que 13 ans. Et à 15 ans, il rejoint le commerce de son oncle à Shiraz. Un peu plus tard, on l'envoya à Bouchir, qui est un port sur le golfe Persique, s'occuper d'un autre commerce de la famille. Il n'avait que 17 ans. Tout en continuant cette carrière commerciale, où il s'était acquis une certaine réputation par son intégrité, son professionnalisme, il poursuivait des méditations et les consignait par écrit. À 22 ans, il s'est marié avec Khadijé, qui était une cousine du côté maternel. Elle avait 20 ans. Ça, c'était en 1842, et ce n'est que 2 ans plus tard qu'il déclara sa mission, comme on va le voir plus tard, à Moulla Hussein. La situation de la Perse à cette époque était catastrophique. La Perse était gouvernée par la dynastie des Qadjars, qui avait apporté une certaine stabilité et une unité au pays avec une vision, certaine vision vers la modernité, mais qui étaient en fait des souverains arrogants et sans beaucoup d'initiative. Ils nommaient au poste de gouverneur et au poste supérieur des princes de sang royal. Toutes les décisions et les nominations autres que celles-là étaient prises à travers des échanges de cadeaux. Donc il y avait une grande corruption et les oulémas, le clergé musulman ainsi que les commerçants entraient dans ce jeu et traitaient de manière parfois cruelle le peuple qui était ignorant et opprimé. Dans cette ambiance, cependant, dès le début du XIXe siècle, se manifestait un courant messianique. Comme d'ailleurs en Occident, dans la civilisation chrétienne. Il y avait aussi un courant qui parlait de millénarisme à l'époque. Ce courant était né à Karbila, conduit par Cheikh Ahmad. On parle de l'école Cheikhi, qui interprétait le Coran de manière allégorique, symbolique, et qui parlait de la venue, du retour du fameux promis attendu par eux et par toutes les religions du passé. C'est ce mouvement qui prépara la venue du pape.
Après ce contexte bien mis en place, je vous propose une première pause musicale.
Oh, friend, in the garden of thy heart, plan, but the rose of love. And from the nightingale of affection and desire, loosen not thy hold. O friend, in the garden of thy heart, plant on but the rose of love. And from the nightingale of affection and desire, loosen not thy hold.
Sur RCF, nous continuons notre entretien avec des membres de la communauté Baha'i, communauté qui va célébrer fin octobre 2019 le 200e anniversaire de la naissance du Bab. Un grand moment dans toute cette histoire, c'est ce qui s'est passé à Shiraz la nuit du 22 mai 1844. Geneviève Hulin.
Dans l'islam chiite du XIXe siècle, comme il a été dit, une école de pensée nouvelle a émergé. Et un des maîtres de cette nouvelle école de pensée fut Sid Qassem. Sid Qassem est mort en 1843 sans désigner de successeur, mais il avait des disciples et a demandé à ses disciples de quitter leur maison, de voyager, de se disperser à la recherche du promis tant attendu. L'un de ses disciples, Molla Hussein, aboutit un jour à Shiraz lors de sa recherche. Arrivé aux portes de Shiraz, il rencontre un jeune homme à l'allure courtoise, gentil, et ce jeune homme lui propose de venir se rafraîchir chez lui. Il accepte bien sûr volontiers, et c'est une heure après le coucher du soleil, le 22 mai 1844, que cet événement se passe. En fait, Mulla Hussein explique la raison de son voyage et le jeune homme l'écoute avec attention et lui dit « Mais j'imagine que votre maître vous a donné des caractéristiques pour pouvoir reconnaître ce promis ». Et il lui dit oui, il nous a dit qu'il avait entre 20 et 30 ans, qu'il était de taille moyenne, qu'il s'abstenait de l'usage du tabac, qu'il était de lignée pure, de descendance illustre, il descendait du prophète Mohammed, qu'il était dépourvu d'imperfections physiques et qu'il était doué d'un savoir inné extraordinaire. Là, quelques minutes de silence, et le jeune homme lui dit « Mais vous remarquez que toutes ces caractéristiques sont en moi. » Évidemment, Molla Hussein est abasourdi, confondu, Et il réfléchit, vraiment, encore une fois, un peu de silence, il réfléchit, il se dit, mais oui, c'est vrai, toutes ces caractéristiques sont en lui. Et il se rappelle que son maître, Sid Rassem, lui avait dit, si tu rencontres le pauvre Romy, eh bien, sans qu'il te demande quoi que ce soit, il te fera un commentaire sur la sourate de Joseph. Encore quelques minutes de silence, et tout à coup, le jeune homme se met à faire un commentaire sur la sourate de Joseph. Là, Mola Hossein est vraiment abasourdi. Il se dit, ben oui, je suis en face du promis. Je suis en face de ce promis tant attendu. Et le jeune homme, alors, s'adresse à Mola Hossein en ces termes. Je dis, ô toi qui es le premier à croire en moi, en vérité, je te le dis, je suis le Bab, la porte de Dieu, et tu es le Baboul Bab, la porte de cette porte. 18 âmes doivent d'abord spontanément et de leur plein gré m'accepter et reconnaître la vérité de ma révélation. Sans avoir été avertie ni invitée, chacune de ces âmes devra indépendamment chercher à me trouver. Et lorsque leur nombre sera complet, l'une d'elles devra être choisie pour m'accompagner dans mon pèlerinage à la Mecque et à Médine. Là, je délivrerai le message de Dieu au shérif de la Mecque. Et Mola Hossein, qui est vraiment abasourdi, comme je l'ai dit, il relate cela, il a l'impression d'avoir reçu la foudre sur la tête. Son cœur est rempli de joie, de courage. Et ça, cet événement, c'est le 22 mai 1844. Il est évident que le commentaire sur la sourate de Joseph s'est prolongé au-delà de cette soirée, parce que la sourate de Joseph contient 111 chapitres. Joseph, c'était un personnage important de la Bible et du Coran. Et le Bab interprète cette sourate de manière symbolique et mystique. Cette histoire de Joseph, en fait, concerne l'accomplissement des promesses de toutes les religions du passé. L'avènement d'un âge de transformation, l'établissement du royaume de Dieu. Et le Bab met en lumière la progressivité de la révélation, l'unité des messagers de Dieu. Et je vous lis ici deux passages qui illustrent cela. « Je suis le temple mystique édifié par la main de la toute-puissance. Je suis la lampe que le doigt de Dieu a allumée dans sa niche et a fait briller d'une splendeur éternelle. Je suis la flamme de cette céleste lumière qui scintilla sur le Sinaï à l'endroit bienheureux et qui demeura cachée au milieu du buisson ardent. En signe de pure justice, nous avons en vérité adressé à chaque prophète des nouvelles concernant la cause de notre souvenir. Et, en vérité, Dieu est suprême au-dessus de tous les peuples du monde. »
Sur ces deux citations du Bab, je vous propose une deuxième pause musicale.
My first counsel is this, possess a pure, kindly and radiant heart, and I may be a star.
Sur RCF, nous continuons notre entretien avec des membres de la communauté Baha'i, communauté qui va célébrer bientôt le bicentenaire de la naissance du Bab. La nuit du 22 mai 1844, nous l'avons entendu, le Bab est reconnu. Et Moulla Hussein est son premier disciple, peut-on dire, mais Moulla Hussein n'est pas le seul disciple. Il y a un groupe de premiers disciples. Pierre Léonard ?
Oui, comme on vient de l'entendre, le Bab a demandé à Moulla Hussein de ne pas révéler qu'il l'avait rencontré. Parce que 17 autres personnes devaient le trouver sans qu'il était renseigné par les autres. Donc ces 17 personnes étaient à la recherche, parmi d'autres, du Bab, et l'ont rencontré, attiré comme par un aimant. Le Bab appelle ces personnages, les 18, Moulla Hussein plus les 17, les lettres du vivant. Le Bab lui-même utilise un langage très allégorique et symbolique. Il se nomme lui-même comme le premier point de la nouvelle révélation et de la révélation qui va le suivre. Le premier point, c'est la première trace de plume sur le papier de la révélation. Ce point est créé par la volonté primordiale, la volonté première qui est Dieu. Et lui-même, en enseignant les premiers disciples, il crée ses premières lettres de la révélation. Donc il parle d'eux comme des 18 lettres, et les lettres du vivant, parce que le vivant, c'est un attribut de Dieu. On parle du Dieu vivant, le vivant. C'est aussi le premier à avoir été recréé, ressuscité par la nouvelle révélation. Voilà pourquoi le Bab et les 18 lettres du vivant constituent la première unité primordiale de la communauté qui va se développer dans le monde entier par la suite. Donc chacun de ces 18 lettres du vivant ont trouvé le Bab indépendamment. C'était des gens loyaux, sincères, ardents, extrêmement dévoués, extrêmement détachés des choses. Et chacun recevra une épître d'ailleurs particulière du Bab, lui donnant sa mission particulière. Parmi ceux-ci, il y avait un personnage très particulier, il y avait une femme. Une femme qui n'a pas rencontré le Bab directement, mais qui a écrit au Bab. Et cette femme s'appelait Tahiré. C'était une grande poétesse iranienne, connue dans l'Iran, qui va jouer un rôle capital dans le futur. Elle va elle-même, on va le voir plus tard, déclarer réellement l'indépendance de cette nouvelle révélation, et en même temps déclarer la rupture avec le passé en lançant un appel pour l'égalité complète entre hommes et femmes. Le dernier du groupe des lettres du vivant est un homme très jeune, un certain Koudous, qui n'a que 22 ans lorsqu'il rencontre le Bab. Il est plein de talent, de dévotion, de courage, et ce sera le disciple le plus proche du Bab. On peut lire un extrait de cette lettre commune à tous les disciples, et vous allez voir qu'on y retrouve des paroles de Jésus. Le Bab dit donc, « Ô mes bien-aimés, vous êtes en ce jour les porteurs du nom de Dieu. Vous avez été choisis comme dépositaires de son mystère. Il appartient à chacun d'entre vous de manifester les attributs de Dieu et de démontrer par vos actes et par vos paroles les signes de sa justice, de sa puissance et de sa gloire. Méditez les paroles que Jésus adressa à ses disciples en les envoyant de par le monde propager la cause de Dieu. C'est avec de telles paroles qu'il leur enjoignit de se lever et de remplir leur mission. Vous êtes comme le feu allumé dans les ténèbres de la nuit au sommet de la montagne. Que votre lumière resplendisse aux yeux des hommes. La pureté de votre vie et le degré de votre renoncement doivent être tels qu'en vous voyant, les peuples de la terre reconnaissent leur Père céleste et se rapprochent de lui, qui est la source de pureté et de grâce. Car nul n'a vu le Père qui est aux cieux. Vous qui êtes ses enfants spirituels, vous devez par vos actes donner l'exemple de ses vertus et témoigner de sa gloire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?
Après cette déclaration, eh bien, la vie du Bab va être particulièrement mouvementée, tout simplement parce que les autorités ne vont pas rester indifférentes. Jean-Pierre Laperche.
En effet, le Bab, après la déclaration de sa mission et l'enrôlement des 18 lettres du vivant, va aller faire un pèlerinage à la Mecque pour annoncer au saint, des saints, quelle est sa mission. Il choisit Qoddous, son dernier disciple, pour l'accompagner. Et Mollah Hussein, le premier à l'avoir abordé, est un peu déçu. Mais le Bab lui donne une autre mission, qu'il dit très importante. Il l'envoie à Téhéran pour apporter ses écrits, un extrait de ses commentaires sur la sourate de Joseph, à quelqu'un qui serait digne de le recevoir, sans précision. Il dit qu'un secret vit caché dans cette ville, et lorsqu'il sera manifesté, il transformera la terre en paradis. Mollah Hussein tout de suite se rend à Téhéran, et il cherche, il prie, il contacte une personne qui est voisin de sa cellule de l'auberge pour lui demander « Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont proches de cet ancien ministre Mirza Bozorg ?» Elle dit « Ah oui, mais moi je suis de leur région, je suis de la région de Nour, dans la province du Mazandéran, et un de ses fils est là, et c'est un personnage vraiment exemplaire. » Et alors Mollah Hussein donne à ce jeune homme un exemplaire des écrits de Bab et il l'envoie donc chez Baha'u'llah, car c'était à Baha'u'llah qu'il adresse le message. Et Baha'u'llah reçoit le message et dit en mots, si quelqu'un reconnaît l'origine du Coran, il doit aussi reconnaître que ses écrits viennent de Dieu. Donc Mollah Hussein reçoit en retour la vie de ce jeune homme et un cadeau d'un pain de sucre et de thé que Baha'u'llah lui a remis. Et il peut écrire au Bab, à Shiraz, comme quoi il a rempli sa mission et qu'il a remis ses écrits et qu'ils ont été acceptés.
Mais il y a plus grave, il y aura un moment où c'est les plus hautes autorités de l'État qui vont intervenir. Le Shah lui-même est malheureusement un ennemi profond, c'est le Premier ministre.
En effet, en revenant de pèlerinage à Bushehr, un port du Golfe Persique, on a déjà parlé du Bab. Ces lettres du vivant ont déjà été sillonner la Perse et l'Irak, et il y a tout un mouvement qui s'est levé, et le Bab, qui est à Bushehr avec Qoddous, envoie d'abord Qoddous à Shiraz. Et là, c'est grave, Shiraz n'accepte pas le message du Bab, surtout le gouverneur, qui est très opposé, et Qoddous est martyrisé, on lui perce des trous dans le corps, on lui met des bougies enflammées, et avec un autre disciple, on les promène dans la rue et on les chasse de Shiraz. Et le gouverneur fait appeler le Bab de Bushehr à Shiraz pour lui faire des remontrances. Finalement, le Bab doit parler à la mosquée, à Shiraz, et dire qu'il n'est pas, mais il ne dit pas qu'il n'est pas le promis, il n'est pas ce que les gens croient qu'il est, c'est-à-dire la porte pour le 12e imam, des choses comme ça qui sont des superstitions populaires. Et le gouverneur l'assigne à résidence chez son oncle, où il va vivre avec sa mère et sa femme. Et il est quand même, on considère que ces enseignements sont blasphématoires et on pense à l'éliminer sérieusement. Mais il y a quand même des adeptes importants, comme un grand théologien qui est envoyé par le chat, un conseiller du chat, un certain Vahid, qui vient à Shiraz pour écouter de la part du chat ce que le Bab a à dire et faire rapport au roi. Le Vahid arrive, très fier, hein, c'est un grand théologien, et il a des entrevues avec le Bab, mais à la troisième entrevue, il est au pied du Bab et il reconnaît sa sagesse et il écrit au chat en disant « Moi, je reste ici, je suis devenu disciple du Bab ». Donc, ça se passe très mal pour le gouverneur et il dit « Voilà, il faut le chasser ». Ça se passe en automne 46 où il quitte donc Shiraz et il va à Isfahan. Isfahan, une autre grande ville, ancienne capitale de l'Iran. Et là, à Isfahan, il est un peu protégé par le gouverneur, qui est d'origine chrétienne, qui reçoit le Bab et qui devient même un disciple, et qui meurt cependant après, très vite. Le chat, qui apprend donc que le Bab est caché chez le gouverneur, demande à voir le Bab. Il veut qu'on l'amène là-bas. Mais le Premier ministre, comme Pierre-Paul a dit, il est très opposé et il ne veut pas que le Bab revoie le chat. Il fait envoyer le Bab en Azerbaïdjan, dans le nord-ouest de l'Iran. Là-bas, le Bab est emprisonné et puis il est jugé par un collège ecclésiastique. On le condamne à mort, mais les autorités civiles ne souhaitent pas l'exécuter à ce moment-là.
C'est donc vraiment une réaction très très forte de la part des autorités qui ont senti à quel point le message du Bab mettait en question les fondements de cette société. Alors, Pierre Léonard, il y a un autre grand moment. C'est la conférence de Badasht. Au fond, cette conférence, on peut penser que c'est le temps des ruptures.
En effet, la révélation divine est progressive. Elle se fait d'étape en étape, d'une manifestation, d'une révélation à l'autre, selon l'évolution de l'humanité. Mais à l'intérieur même de la révélation, les enseignements sont révélés graduellement en fonction de la compréhension des disciples. Les musulmans, parmi lesquels le Bab est apparu, étaient convaincus qu'aucune lettre des enseignements du prophète Mohammed ne pouvait être changée jusqu'à la fin du monde. Donc les changements devaient être introduits progressivement. Et ce n'est qu'à la fin de son ministère, alors qu'il était emprisonné dans la forteresse de Makou, dans le nord du pays, que le Bab a révélé une série de lois nouvelles, dans le livre qu'on appelle le Bayan persan, qui abrogeait les lois islamiques. Le temps était venu pour les disciples de rompre clairement avec le passé et de proclamer le rang véritable du Bab. Ceci était très délicat. Et ça s'est produit lors d'un rassemblement de 80 disciples à Badasht. C'était un village au nord de l'Iran, près de la mer Caspienne. Ils avaient été invités là par Baha'u'llah, qui était leur guide en l'absence du Bab. Il était question de trancher une question vitale et capitale. Leur croyance était-elle une simple ramification de l'islam ou était-ce une foi indépendante? Au même moment, pendant que se tenait là cette conférence à Badasht, le Bab était convoqué, comme vient de le dire Jean-Pierre, au tribunal à Tabriz, où il manifestait qu'il était l'initiateur d'une nouvelle révélation. Chaque jour, pendant 22 jours à Badasht, Baha'u'llah révéla une épître, une lettre différente devant les croyants rassemblés. Les nouvelles lois étaient révélées. Chacun reçut de Baha'u'llah un nouveau nom, et notamment Tahiré, qui au départ, à la naissance, s'appelait Kuratulaïn, qui veut dire la consolation des yeux. Baha'u'llah, à partir de ce moment, l'appelle Tahiré, la pure. Et de même, Koudous reçoit son nom à ce moment-là, ça signifie « le saint ». Et le Bab va confirmer ces nouveaux noms en envoyant une tablette ou un épître spécial à chacun des participants avec son nouveau nom. Durant les 3 semaines de la conférence, il y a des arguments et des répliques qui sont échangés, en particulier entre Koudous et Tahiré, qui font des échanges d'approches et de points de vue contradictoires devant les amis. Et à la fin, c'est un geste courageux de Tahiré sans précédent qui met en avant très clairement qu'on a affaire à une nouvelle dispensation. Elle apparaît devant les disciples sans voile, elle considérée comme la pure. Les amis sont troublés. Elle appelle les gens à rompre avec le passé, à rompre avec les dogmes religieux rigides, avec les traditions qui bloquent les amis. Certains hommes présents sont secoués au plus profond de leur être. Certains quittent la réunion. Un veut même se trancher la gorge. Et alors apparaît Baha'u'llah qui saisit l'occasion pour célébrer l'aurore d'un jour nouveau et réunir tous les amis dans un même enthousiasme. Lorsque ceux qui étaient demeurés fermes quittent le hameau de Badasht à la fin de la conférence, c'était pour sortir vers ce qu'ils considéraient comme un monde nouveau. Ils se sentaient transformés et voulaient transformer le monde autour d'eux. Et ils étaient bien déterminés à revendiquer leur liberté des entraves du passé. Dans un pays qui était considéré comme fanatique, étroitement lié à une orthodoxie aveugle et rigide, la conduite des Babis allait soulever une hostilité acharnée.
Et c'est bien, effectivement, le temps des ruptures. Je vous propose une nouvelle pause musicale.
RCF, la joie se partage.
Sur RCF, nous continuons notre entretien avec des membres de la communauté Baha'i qui va bientôt fêter le 200e anniversaire de la naissance du Bab, cofondateur au fond avec Baha'u'llah de la religion Baha'i. Et nous avons entendu que dans la conférence de Badasht, il y a eu toute une série de ruptures théologiques. Mais maintenant, c'est l'épisode, un épisode beaucoup plus politique et beaucoup plus violent que Pierre Léonard va nous raconter.
Au sortir de la conférence de Badasht, les amis se dispersent. Certains retournent dans leur lieu d'origine. Baha'u'llah retourne vers le Mazindaran. Koudous retourne dans sa ville natale. Moulay Hossein n'a pas pu participer à la conférence de Badasht. Il se trouve à Mashhad, dans le Khorasan. Très vite, à la sortie de Badasht, ils sont déjà attaqués dans un village qui s'appelle Niala. Étant à Mashhad, Moulay Hossein apprend que Koudous est arrêté dans sa ville natale. Donc, il décide avec des amis d'aller réclamer sa libération. Ils quittent un certain nombre de le Khorasan, des nouveaux déclarés les rejoignent. Ils arrivent dans le Mazindaran, dans une ville qui s'appelle Barfourouch, où le clergé incite la population à les agresser. Il y a des disputes, il y a des bagarres. Ils arrivent à se mettre d'accord sur une trêve, mais ils doivent quitter cette ville. Ils étaient pourtant là pour se rassasier et pour se reposer un peu parce qu'ils avaient fait déjà une très longue route. On leur donne une troupe pour les accompagner, pour sortir de la ville et s'éloigner de la ville. Ces troupes, ce ne sont pas des militaires, ce sont des brigands qui les attaquent en chemin. Ils doivent se défendre et fuir plus loin. Ils arrivent dans un village qui est à une 20aine de kilomètres seulement de Barfourouch. À proximité de ce village se trouve le tombeau d'un érudit du XIIe siècle qui s'appelle Shaikh Tabarsi. Ils se mettent là auprès du tombeau pour se réfugier. Moulay Hossein ordonne aux amis de construire une petite fortification autour du tombeau pour se protéger, car ils ne se sentaient pas en sécurité. Des gens de la région les attaquent. Le gouverneur envoie des troupes de 300 à 400 assaillants. Il y en a 1000 et puis 3000. eux, ils sont rejoints par d'autres, ils se retrouvent entre 300 et 500, autour de 500. Baroula vient leur rendre visite et les encourage à faire venir Qudus, qui est détenu, dans la ville de Souris. Donc ils envoient Moulay Hussein va à Souris pour essayer de faire libérer Qudus, qui finalement les rejoint, et ils sont obligés de se défendre contre les troupes de plus en plus nombreuses autour d'eux. Ils font quelques sorties qui étonnent les militaires parce qu'ils réussissent à les défaire et à les empêcher d'entrer dans la fortification. Mais il y a des morts des deux côtés. Il y a des morts par les disciples du Bab, et notamment Moulay Hussein est tué. Ils arrivent dans une situation telle qu'il y a plus de 10 000 soldats autour d'eux, envoyés de la capitale, qui bloquent tout accès à l'alimentation. Ils meurent de faim, ils sont obligés de se nourrir de l'herbe, de manger leurs chevaux, de manger jusqu'au cuir de la selle des chevaux. Ils sont dans un état épouvantable et le responsable des troupes propose une trêve en la main sur le Coran, disant que s'ils quittent le fort, ils vont être libérés et vont pouvoir partir. C'est malheureusement de la traîtrise. Ils acceptent cette promesse faite sur le Coran. Ils sortent et une grande partie sont massacrés dans des conditions atroces sur place. Quelques-uns réussissent à s'enfuir, d'autres sont capturés et envoyés en esclavage. Qudus est capturé et envoyé dans sa ville natale, où il sera exécuté lui aussi dans des conditions atroces un peu plus tard. C'est donc une situation épouvantable pour les Babis. Des événements similaires vont survenir dans deux endroits un peu dans les mêmes circonstances, en Aïris et Zanjan. Et le récit de ce qui se passe, plus l'arrestation du Bab à Tabriz, fait que les autorités dans les différents coins de la Perse se sentent libres de dénoncer les Babis et les attaquer dans toutes les régions. Il y aura plus de 20 000 martyrs dans toute la Perse dans ces années-là.
Au fond, on peut penser que les autorités ont bien compris la nouveauté du message et donc le danger pour leur pouvoir. Et pourtant, Jean-Pierre Laperche, le message du Bab a suscité un grand enthousiasme chez certains.
Chez des gens de toutes conditions sociales. Mais bien que plusieurs membres éminents du clergé musulman aient accepté le Bab, beaucoup d'autres se sentirent menacés par son influence grandissante, craignant que le peuple, rendu ainsi plus autonome, ne mette en péril leurs privilèges et leur autorité. Ils accusèrent les enseignements du Bab d'être hérétiques et entreprirent de l'anéantir, lui et ses disciples, ce qui avait déjà commencé à Cheikh Tabarsi, Nehriz et Zanjan. La controverse faisait rage dans les mosquées et les écoles religieuses, dans les rues, dans les bazars de tout le pays. Et à la suite de ces événements et de son bannissement de ville en ville, de prison en prison, le Bab fut finalement exécuté à Tabriz le 9 juillet 1850.
L'exécution du Bab, c'est tout de même quelque chose de très étrange, Jean-Pierre Laperche.
En effet, le grand vizir, le premier ministre, avait ordonné l'exécution du Bab, mais quand les gardes viennent chercher le Bab le jour de son exécution, le 9 juillet 1850, le Bab leur dit « Je suis en train de converser avec mon secrétaire. Aucun pouvoir terrestre ne pourrait m'empêcher de continuer. » Les gardes n'en font rien, ils emmènent le Bab, on l'amène dans la cour de la caserne, avec un de ses jeunes disciples qui avait voulu être martyrisé en même temps que lui. On les suspend à une poutre sur un mur de la caserne, le disciple avec sa tête qui va sur la poitrine du Bab. On amène un régiment chrétien et le chef du régiment avait été voir le Bab avant en disant « Mais moi, je n'ai rien contre vous. » Et le Bab lui dit « Faites votre travail et Dieu va vous aider. » Bon, les 750 fusils sont alignés en trois rangées. On tire, beaucoup de fumée. La fumée se dissipe et on voit le jeune disciple indemne dans la cour et le bab n'est plus là. Miracle, miracle, les gens commencent à crier, ils sont sur les toits qui environnent la caserne et on retrouve le bab dans sa cellule en train de terminer son allocution avec son secrétaire et dit maintenant, vous pouvez me prendre. On demande au régiment de reprendre place. Le chef du régiment dit non, cette fois-ci, c'est fini. Moi, je m'en vais avec mes hommes. Et on prend un autre régiment musulman qu'on aligne. Et finalement, donc, le bab est exécuté. Et avant de l'être, il dit, si vous aviez cru en moi, ô génération rebelle, chacun d'entre vous aurait suivi l'exemple de ce jeune homme qui était supérieur à la plupart d'entre vous quant au rang, et vous vous seriez volontairement sacrifié dans mon sentier. Mais le jour viendra où vous me reconnaîtrez. Ce jour-là, j'aurai cessé d'être parmi vous. Cette fois-ci, le corps du bab et de son jeune disciple sont criblés de balles. Un tourbillon de poussière à ce moment-là envahit la ville et il y a une occultation du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Le corps du bab est jeté à la porte de la ville de Tabriz et pendant la nuit, il est récupéré par des disciples qui le mettent dans un cercueil et le cachent jusqu'à bien plus tard quand il sera enterré sur les pentes du Mont Carmel dans le mausolée doré que vous pouvez voir quand vous êtes touriste là-bas.
RCF, la joie se partage.
Au fond, toute cette aventure spirituelle, c'est une révélation qui bouscule. Et nous en sommes déjà à la fin de cet entretien, Pierre Léonard. Il y a dans ce moment un véritable changement social, profond et radical.
On peut dire qu'un changement social radical était sur le point de balayer toute la Perse, tant le nombre d'adeptes du bab était important et la diversité des milieux qui étaient touchés. Cependant, la transformation n'a pas eu lieu tout de suite à cause de l'intervention des dirigeants religieux et politiques qui craignaient que le bab mette en péril leur autorité. La cruauté sans bande de ses dirigeants a laissé les disciples du bab brisés, épuisés, privés de toute ressource et des conseils de leur leader. Le bab a été tué. Bahá'u'lláh est emprisonné à Téhéran. Cependant, la mission du bab est accomplie. La mission du bab est de préparer l'humanité à l'avènement d'un âge de transformation au-delà de tout ce que la génération qui l'entendait pouvait comprendre. Leur devoir était de purifier leur cœur afin de pouvoir reconnaître celui que Dieu rendrait manifeste et servir à l'établissement d'une nouvelle civilisation planétaire. Bahá'u'lláh, après avoir été emprisonné à Téhéran, est exilé à Bagdad et il y déclara qu'il était le premier annoncé par le bab en 1863. La foi bahaï est aujourd'hui en plein développement dans le monde entier. Les bahaïs invitent tous leurs concitoyens dans leur quartier, leur ville, leur village, là où ils résident, à les accompagner dans ce travail, ce service de transformation de la société, de transformation de soi-même et de transformation de la société, inspiré par les enseignements du bab et de Bahá'u'lláh, et notamment à travers des activités éducatif pour les enfants, des activités d'autonomisation spirituelle des préadolescents, des réunions ou rencontres de type dévotionnel et méditatif pour élever le niveau de la société.
Et tout ça, si j'ai bien compris, avec une puissante aspiration à la paix, à la concorde, à la reconnaissance de l'autre, tout simplement. Merci beaucoup, mais avant de nous quitter, eh bien, nous allons écouter quelques textes. Des textes du Bab, notamment de Bahá'u'lláh aussi, et même de la poétesse Tahereh, des textes à savourer. Écoutons. Geneviève Hulin.
Devenez comme de véritables frères dans la religion de Dieu, une et indivisible, exempt de distinction, car Dieu, en vérité, désire que votre cœur devienne un miroir pour vos frères dans la foi, afin que vous vous réfléchissiez en eux et eux en vous. Ceci est le vrai chemin de Dieu, le Tout-Puissant, et en vérité, il est attentif à vos actions.
Le Bab dit encore, « Le seul vrai Dieu peut être comparé au soleil et le croyant à un miroir. Sitôt placé face au soleil, le miroir réfléchit sa lumière. »
À moins qu'elle n'apparaisse dans le plus haut degré de perfection qui est assigné, aucune chose créée n'atteindra jamais son paradis. Ce cristal, par exemple, représente le paradis de la pierre dont se compose sa substance. De même, il y a différents degrés dans le paradis pour le cristal lui-même. Tant qu'il était pierre, il était sans valeur, mais s'il atteint l'excellence du rubis, une potentialité qui est latente en lui, combien vaudra-t-il par carat, considéré de la même manière, toute chose créée? Le plus haut rang de l'homme, toutefois, est atteint par la foi en Dieu en chaque dispensation et par l'acceptation de ce qui a été révélé par lui.
Il n'y a pas de paradis plus merveilleux pour aucune âme que d'être exposé à la manifestation de Dieu en son jour, d'entendre ses versets, de croire en eux, d'atteindre sa présence qui n'est rien d'autre que la présence de Dieu, de naviguer sur la mer du royaume céleste de son bon plaisir et de prendre part aux fruits de choix du paradis de sa divine unicité. Bienheureux celui qui, en chaque dispensation, reconnaît le dessein de Dieu pour cette dispensation-là et n'en est pas privé en tournant son regard vers les choses du passé.
Le grand être dit « Voyez en l'homme une mine riche en gemmes d'une inestimable valeur, mais seule l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. »
Et quoique je chante les mélodies merveilleuses à la louange de cet ami aimant et tant aimé, ces versets ne sont pas de ma plume impuissante, toutes ces perles ne sont pas de mon eau. Mais si tu as les yeux du cœur pour lire entre les lignes, tu sauras sans l'ombre d'un doute qu'un amour aussi grand a, de toute éternité, puiser sa sève et baigner ses racines dans le cœur du tout aimant, la source insondable du plus grand nom.
Voilà, nous avons entendu des membres de la communauté Bahaï qui préparent la célébration du 200e anniversaire de la naissance du Bab. Quelques indications sur cet anniversaire?
En fait, une commémoration aura lieu le mardi 29 octobre à 17h30 au Congrès Hôtel Liège, en la salle Léonard, c'est place d'Italie à Liège, 4020 Liège, et vous êtes évidemment tous les bienvenus.
Une adresse internet?
Une adresse internet, www.bahai.be, www.bahai.be.
Pierre Léonard veut ajouter quelque chose.
Oui, comme je suis de Namur, je vais préciser l'événement qui aura lieu à Namur. Le même jour, le 29 octobre, à 18h30, aura lieu une marche méditative au flambeau à la citadelle à Namur, en espérant que le temps le permette. Et puis il y aura des réunions dans les familles où les amis seront invités dans chaque famille à visionner un film qui est en développement actuellement sur la vie du Bab et son influence sur notre vie propre. Et nous aurons alors des échanges plus intimes autour de ce film.
Eh bien, un grand merci. Un grand merci à Geneviève Hulin, à Jean-Pierre Laperche et à Pierre Léonard d'être venus jusque dans nos studios. Et je vous signale simplement que pour les autres émissions, les trois émissions du début octobre, début novembre et début décembre seront consacrées à l'islam. Trois émissions qui se font suite et qui approfondissent en prenant notre temps. D'abord, une première émission sur l'islam et son esprit, avec comme fil rouge les noms de Dieu. Ensuite, une deuxième émission sur la théologie du vivre ensemble. Et enfin, une troisième émission qui développe cette question « Comment vivre l'islam au XXIe siècle ?» Chers auditeurs, merci beaucoup. Pierre-Paul Delvaux vous souhaite beaucoup de bonheur et vous donne rendez-vous dans un mois. Au revoir, à bientôt.
Sur toi j'ai répandu ma grâce.